pour moi, ça a dépassé largement le souci que j'avais. Ça m'a non seulement rassurée, mais j'ai trouvé que ça avait une tenue qui m'intéressait beaucoup. Enfin, c'était une belle pièce de travail qu'on pouvait utiliser. Et voilà, je dois même dire que par rapport à un travail que j'ai fait, j'y suis retournée par rapport à quelque chose que vous nous avez dit, Patrick. Donc, on continue, hein, puisque quand même, ça a déjà produit quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant. J'ai vu que sur les sites, il y avait des remarques à propos de positifs, hein, à propos de ce premier film et de ce qui avait été énoncé. Donc, Patrick,
je me suis retrouvé dans la position de l'analyste qui recommence à enseigner, qui est une position d'esclave.
Ah, voilà, au travail.
Alors. Donc, je vais commencer un peu direct comme ça dans le sujet. Il y a du psychanalyste, mais il n'y a pas un psychanalyste. C'est donc une rêverie hystérique de penser qu'il y en a au moins un. Cela dit, on ne va pas se plaindre, parce que si elles viennent nous voir, elles nous font croire que nous sommes psychanalystes et... Il ne s'agit pas de les croire, mais enfin, ce n'est pas désagréable d'avoir des personnes qui vous mettent dans cette position-là. La psychanalyse a commencé à exister à partir du moment où Freud découvre qu'il y a un dire interdit. Interdit, ça veut dire entre les dits, qui est à entendre entre les dits, mais qui est aussi à lire entre les lignes. Alors ces deux notions de dit et de dire sont souvent très difficiles à séparer quand on en parle, parce que au fond, les dits, on comprend que c'est les choses qui sont dites, mais le dire peut se référer soit à l'acte d'énonciation d'un sujet, soit au contraire, dire autre chose qui est un événement. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous saisissiez la chose. Quand De Gaulle lit son appel du 18 juin, il dit quelque chose, il lit un texte, il dit quelque chose, mais ça fait un événement, donc il y a un dire dans ce qu'il dit, qui va changer le cours de l'histoire, en tout cas pour la France sous l'occupation. Voilà comment il faut entendre cette dimension de dire comme étant une touche du réel, et donc ce n'est pas tous les jours, quand on parle, que l'on prononce et que l'on dit des choses qui font événement. Voilà, sinon la plupart du temps, c'est un peu du blablabla, les dits. Alors, se dire interdit, Freud le nomme comme il peut l'inconscient. Alors, ça prête à toutes sortes de confusions, parce qu'au fond, c'est un terme qui est utilisé dans d'autres domaines, et on voit aussi comment ailleurs on s'en empare aujourd'hui, par exemple en philosophie. Seulement, ça n'a rien à voir avec la définition freudienne de l'inconscient, que je reprendrai un petit peu plus tard. Il faut faire la distinction entre le savoir et la connaissance. La connaissance, au fond, c'est, on pourrait dire comme ça, c'est de l'information. On dirait de quelqu'un qui l'est cultivé parce qu'il a beaucoup lu, qui connaît beaucoup de choses. Et une méconnaissance liée à un défaut disons, d'information, ça ne se recouvre pas avec ce qu'on appelle l'inconscient. Mais je vous en parle d'emblée parce que c'est des choses qui se véhiculent dans la doxa et dans les journaux. Donc c'est un terme qui, en principe maintenant, appartient à la psychanalyse. C'est même un concept fondamental de la psychanalyse. Et en même temps, ça reste encore... par exemple, Jung, il parle aussi de l'inconscient, mais ce n'est pas l'inconscient freudien. Ça, il faut le savoir, parce que j'ai déjà discuté avec des personnes qui sont proches des théories de Jung, et peut-être que je pourrais en dire les grandes différences. Dire qu'il y a un refoulement originaire qui n'est jamais levé, c'est dire qu'il y a un trou dans tous les savoirs. Il n'y a donc aucun discours qui peut prétendre faire monde avec son propre discours, y compris celui de la science. C'est-à-dire que la science, elle attrape des bouts de réel, mais ça ne fait pas l'univers. Et compte tenu de la marge de la science actuellement, qui va de plus en plus vers le réductionnisme eh ben on ne s'y retrouve pas. Hein. Autrement dit, la science, c'est aussi un fantasme. Si vous allez dire ça à Saclay, vous risquez d'avoir des histoires. Mais c'est aussi un fantasme. C'est-à-dire que le réel, pour le parlant que nous sommes, pour les parlants que nous sommes, on ne peut jamais l'atteindre. Voilà. C'est ce que dit d'ailleurs le théorème de Gödel, en ces termes, dans tout système formel, il y a toujours une part d'indécidable et d'indémontrable. Ça a été repris par Lacan, bien entendu, qui a chopé ça en cours de route. L'inconscient que Freud situe dans sa première topique, moi c'est plutôt de ce côté-là que je me situe, entre perception et conscience, cet inconscient est constitué des traces mnésiques que laissent les premières expériences perceptives du sujet, le premier moment de sa vie. Et Lacan va rentrer là-dedans avec son axiome bulldozer pour dire que l'inconscient est structuré comme un langage. Son retour à Freud n'est pas une simple relecture avec des commentaires, c'est vraiment une tentative de retrouver le sens originaire de la lettre de Freud. C'est-à-dire que même Freud, à son insu, a fait émerger un certain nombre de dires, des points de réel, il l'ignorait d'une certaine façon, et c'est ça qui est très fondamental. Il est arrivé à faire passer dans son œuvre un nouveau savoir tout en ne le sachant pas. Alors, je dis ça parce qu'on voit des Onfray qui se précipitent sur « il a trafiqué ses notes, il a trafiqué ses cas cliniques et tout ça », alors qu'il fallait aller justement chercher les pépites qui sont dans Freud. Et moi, j'insiste beaucoup pour que nous fassions et que nous travaillions sur le couplage Freud-Lacan. On ne peut pas travailler Lacan sans revenir tout le temps à Freud, et on ne peut pas lire Freud sans se servir aussi de Lacan. Et ça marche très bien, on découvre tout le temps, à chaque lecture nouvelle, on découvre des choses. Et Lacan s'autorise de cette définition à partir des trois premiers grands ouvrages fondamentaux de Freud, que sont l'interprétation des rêves, le mot d'esprit dans son rapport avec l'inconscient, et puis psychopathologie de la vie quotidienne. C'est les trois grands ouvrages où on peut vraiment lire sans difficulté que pour Freud, l'inconscient est structuré comme un langage. Dès la première séance d'ouverture de son séminaire au public, en 1953, Lacan annonce comment il procède dans son enseignement, mais aussi ce que va devenir sa pratique. Alors, je le cite. Le maître interrompt le silence par n'importe quoi, un sarcasme, un coup de pied. C'est ainsi que procède dans la recherche du sens un maître bouddhiste selon la technique zen. Il appartient aux élèves, eux-mêmes, de chercher la réponse à leurs propres questions, le maître n'étant là que pour leur donner une indication au moment où ils sont en train de trouver la réponse aux questions qu'ils se posent. Donc, Lacan situe son enseignement comme étant en dehors de tout système, un refus de tout système, c'est un refus même calculé de tout système, parce qu'il découvre une pensée en acte et en mouvement perpétuel qui fonctionne sur plusieurs registres, comme Freud d'ailleurs, qui passe son temps à faire des allers-retours dans ses avancées théoriques. Et c'est une erreur de penser qu'il n'y a que des mots usés chez Freud, comme on l'entend actuellement dire par certaines personnes. Freud est dépassé. Eh bien, il en est le même avec la pratique. On peut dire que Lacan, c'est souvent les confusions, définit que ses modes d'intervention dans sa pratique, interprétation, levée des séances, qui sont des interruptions, scansion suspensive ou ponctuation, relève de la coupure. Voilà, c'est de la coupure. Il coupe. Et c'est un rapport à l'écriture. Quand on fait des traits, on coupe dans le texte. pour lui donner un autre sens. Donc c'est des coupures qu'il effectue dans le texte de l'analysant. Alors, avant d'aller plus avant, il faut que je revienne à un texte premier de Lacan qu'il a rédigé en 1945 et qui, au sortir de la guerre, c'est important de le savoir parce que le contexte compte, qui est une clé pour la compréhension de sa pratique spécifique. Alors, je résume le truc, ce texte s'appelle « Le temps logique et l'assertion de certitudes anticipées ». Bon, moi je vais le simplifier au maximum, mais quand on va le lire de près, c'est assez difficile. Alors, c'est un directeur de prison qui convoque trois prisonniers et qui leur dit « Voilà, je vous offre la possibilité d'être rendu à la liberté si vous acceptez de vous soumettre à l'épreuve que voici. Je dispose de trois disques blancs et de deux disques noirs. » Et je vais placer un de ces disques dans le dos de chacun de vous, sans qu'il sache duquel il s'agit, et il aura la possibilité de regarder les deux autres, bien sûr, les deux autres prisonniers. Vous n'avez pas le droit de communiquer entre vous, et le premier qui aura trouvé la solution, c'est-à-dire qu'il aura identifié la couleur qu'il a dans le dos, sera libéré. Hein ? Il faut que vous me donniez, dit le directeur de la prison, il faut que vous me donniez une réponse logique et pas simplement qui relève de la probabilité ou de la simple intuition. Les trois prisonniers s'observent et au bout d'un certain temps, comme ça, ils sortent ensemble. Et chacun, séparément, donne la réponse suivante au directeur de la prison. Alors vous voyez le contexte de la prison, enfin, c'est un peu curieux, et je pense que c'est lié au contexte, bien sûr, de la guerre, et puis c'est peut-être une réponse à Sartre, qui avait écrit un texte, je ne me souviens plus lequel, où il dit qu'il n'y a pas de plus grande liberté que d'être entre les quatre murs d'une prison. Ce qui est quand même un peu une provocation de l'époque. Enfin, c'était comme ça. Hein. Donc voilà, un des prisonniers, c'est chacun va dire la même chose. Premier temps, ce qu'on appelle l'instant de voir, qui est l'instant d'intuition, comme ça, on jette un coup d'œil, et il se dit voilà, je vois en face de moi deux blancs, donc je suis ou blanc ou noir. Qu'est-ce que je peux faire pour le savoir ? Là, peut-être que si je m'avance vers la sortie, si j'esquisse un geste, un petit peu comme quand on joue au poker, hein, on bluffe un peu, si j'esquisse un geste vers la sortie, je vais apporter quelque chose de nouveau dans ce que je vois. Et effectivement, il va vers la sortie et les trois personnages font exactement la même chose. Donc, il s'arrête. Première scansion suspensive. Et il se dit, bon, il se met à réfléchir. Temps pour comprendre. Il faut qu'il comprenne pourquoi. Il se met à raisonner. Et il se dit, voilà, au fond, il y a une probabilité que nous ayons la même couleur. Cependant, après tout, si par exemple j'étais noir et que le prisonnier numéro 2 faisait le même raisonnement que moi et que chacun de nous avait un disque noir, le troisième, aussitôt voyant deux disques noirs, aurait la certitude qu'il a un disque blanc et par conséquent prendrait la sortie. Or, il n'en fait rien. Ça veut dire que il y a un moment d'arrêt absolu, il y a un arrêt absolu. Deuxième scansion suspensive dans le mouvement de sortie. Et à ce moment-là, le prisonnier dit, mais là, il faut que je sorte le plus vite possible, parce que si je ne sors pas tout de suite, les autres vont me doubler et je n'arriverai pas le premier, parce que c'est, on dit le premier. Et les trois prisonniers se hâtent vers la sortie, chacun ayant fait exactement le même raisonnement que lui, ce qui démontre l'intuition du départ, et par conséquent, il ne faut pas être en retard sur les autres, sinon on se trompe. Et voilà comment se solutionne c'est un sophisme. Alors, il y a une erreur il y a comme dans tout sophisme, quand vous les étudiez, il y a une erreur de raisonnement, toujours. Il y a un piège là-dedans. Il manque un truc. Alors, Lacan va dire qu'au fond, donc, le dernier temps, c'est la hâte de conclure dans une certitude anticipée d'être blanc, et que donc il faut faire le geste de sortir. conclure le truc. Alors, Lacan reprend le sophisme, qu'il étudie d'une façon très développée, très compliquée, mais je le simplifie là, comme ça, pour nous aujourd'hui. Il va dire que si on tient compte, non pas du mouvement qui existe, bien sûr, du mouvement de chacun de sujet dans l'acte, mais des motions suspensives, alors à ce moment-là, on intègre le temps, c'est pas les tensions suspensives avec les autres, on les intègre dans un procès logique, et donc dans une dans, qui n'est plus du même registre qu'un simple procès chronologique. Et que donc le sujet va pouvoir conclure au terme d'une véritable expérience logique. Alors, vous voyez, c'est tout l'horizon de ce que peut être une logique du signifiant, de la chaîne signifiante, dont chacun, pour lesquelles chacun de nous a à se repérer là-dedans. Alors, Lacan ne parle jamais de séance courte, mais de séance, de variante de la cure type, où il ironise, bien entendu, parce qu'il va dégommer ce truc-là. La cure type. Variante de la cure type, il va dégommer la cure type. La cure type, c'est celle qui est un usage à l'Association internationale de psychanalyse à l'époque, qui se règle, enfin qui se définit à partir de règles immuables qui fixent ce qu'on appelle le cadre. Bon, quand vous allez voir ces gens-là, vous êtes encadrés. Même si entre eux, ils ne peuvent pas s'encadrer, comme pratiquement tous les analystes dans toutes les institutions analytiques, pour une raison qui est toute simple, c'est que les analystes, ce sont des épars dépareillés, en quelque sorte. Ils ont un mal fou à faire groupe, parce qu'ils sont des chacun à un, et donc c'est très difficile de faire du collectif, encore que Lacan, il avait cette vision, il était un peu optimiste. Comment faire un corps avec une foule? Ça, ça n'a jamais été repris par les groupes analytiques, mais c'est un truc très intéressant parce que c'est une façon de traiter le nombre. Et justement, dans cet apologue dont je vous ai parlé, c'est une tentative d'essayer de mettre en route un fonctionnement du traitement du groupe par le nombre, y compris le travail en cartel et des choses comme ça, pour éviter les effets de foule. Donc lui, voilà, alors, dans cette AIPA, il y a 3 ou 4 séances par semaine, d'une durée de 50 minutes minimum, et c'est donc une référence purement horlogère, c'est le temps de l'exactitude, exactement, oui. Il y a 3 ou 4 trains par semaine pour aller nulle part, mais ils arrivent toujours à l'heure, hein, comme ça que ça se passe. Les variantes de la cure type, bien entendu, désignent les fameuses dites séances courtes. Ils sont condamnés sans appel et pratiquement depuis le début, Lacan il est dans le collimateur. Et c'est comme ça à l'IPA. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout le monde s'en fout, on est très tolérant, chacun a ses petites théories dans son coin, il écrit, publie, toutes les variantes théoriques sont acceptées. C'est pour ça que ça marche pour eux, en tout cas, à condition, alors là aussi j'ironise, de porter un costume gris, la cravate assortie, et quand on est didacticien, d'avoir un bureau avec pas trop de fantaisie à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas que l'analyste laisse transparaître quelque chose de sa personnalité, sinon l'analysant va être, enfin ils disent pas analysant, le patient, là, il va être influencé. Moi j'avais un très bon copain, qui était en analyse chez quelqu'un de très connu de l'IPA, comme ça, il m'a dit qu'il les 10 premières années de sa vie, il n'avait non seulement jamais entendu son analyste dire le moindre mot, jamais, et en plus il ne le voyait pas parce que son analyste lui ouvrait la porte et il était derrière la porte. Ensuite, il allait s'asseoir derrière le divan, et quand la séance était finie, l'analyste allait ouvrir la porte, il était derrière, et lui, il payait, mais il a reçu son billet, il ne le voyait pas. Bon, je dis ça comme ça. Alors, moi, en mai 68, après mai 68, à bout de souffle, c'était ça, j'étais à bout de souffle. Je m'étais un petit peu frotté à quelques IPistes, soit des analystes bien installés, soit ce qu'on appelait à l'époque des psychanalystes en formation. Alors déjà, psychanalyste en formation, c'est quand même très suspect, parce que au fond, quand on devient un analyste, c'est plutôt c'est une déformation continue de la structure tout le temps. Hein. Et que donc, il n'y a pas de formation de l'analyste, il n'y a que des formations de l'inconscient à analyser, bien entendu. Donc, je travaillais avec eux parce que j'étais assistant dans un service de psychiatrie qui avait une orientation plutôt côté analytique. Et on faisait des groupes, ce qu'ils appelaient des groupes de parole. J'étais absolument sidéré parce que ils n'écoutaient pas ce que disaient les patients. C'est des gens très gentils, hein, faut pas croire. Et alors, aux synthèses, quand on avait des synthèses, on parlait de ce qui s'était passé dans un groupe du matin, alors on blablatait, on racontait un petit peu les choses de la journée, les choses comme ça. Ils tenaient entre eux, ils avaient des propos contre-transférentiels entre eux. C'est-à-dire que je les entendais dire un tel, « Ah oui, tel patient m'a beaucoup ému, je trouve qu'il souffre beaucoup, il me rappelle une cousine éloignée ou un oncle, un tel, enfin des choses comme ça. » Moi, je trouvais ça absolument obscène, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyez le contre-transfert, ce que c'est. C'est contre le transfert, quoi. C'est ça que ça veut dire, le contre-transfert. Hein. Bon. Je n'insiste pas trop là-dessus. En tout cas, à l'époque, on n'en était pas encore à la psychologisation galopante que l'on a aujourd'hui. Hein. Ou alors là, il n'y a plus de discours politique, tout le monde est catégorisé dans des trucs psychologiques. On a un président normal, hein. On a nos pervers narcissiques, et on a un certain nombre de on est pris dans une typologie comportementaliste avec un retour d'une clinique phénoménologique qui vraiment c'est terrifiant quoi. Ah ben moi je trouvais qu'ils étaient à côté de la plaque, et puis puisque j'en parle, ils étaient à côté, ça veut dire que pas du tout, ils n'étaient pas du tout à côté, ils étaient très loin de la plaque, parce que quand on est sur la plaque quand même ça peut un peu bouger. Et sachant la réputation sulfureuse de Lacan à cette époque-là, parce que déjà à l'époque, on en parlait comme d'un monstre, lui, il enseignait ce que parler veut dire. Ce que parler veut dire n'est pas communication, mais chose à dire d'abord, qui ont des effets et des conséquences. Ça parle, disait-il, donc se jouit. Dont le sujet, bien entendu, ne veut rien savoir, et c'est un des mystères du corps parlant. Pour lui, le par-l'être, bien sûr ce terme est venu plus tard, mais je le prends ici, le par-l'être que nous sommes tous est l'effet de l'existence, alors je l'écris en deux mots, EK, trait d'union, sistance, c'est un terme qui a été emprunté à Heidegger, qui signifie que c'est hors du site, par exemple du langage. Ça existe au langage, c'est hors de son site. C'est ça que ça veut dire, l'expression. Donc, la structure réelle se disperserait en une poussière de tort, comme on dit, ce sont en gros les structures élémentaires de la parenté, si vous voulez, si elle n'était pas liée par le symbolique, c'est-à-dire le signifiant, dans sa rencontre contingente, avec un corps vivant. Vous voyez, il y a un nouage qui se fait entre cette structure qui est liée par le signifiant à un corps vivant, dont nous ne savons pas très bien ce que c'est qu'un corps vivant. Hein. Alors ça, c'est un truc absolument implacable. Ben pour moi, je peux dire que ça a été... nous sommes le seul animal parlant de toutes les espèces animales sur la planète. On ne sait pas pourquoi. Et le seul point où on trouve une indication chez Lacan, il dit qu'il y a peut-être une affinité du corps humain avec le langage. Donc on ne sait pas, pourquoi nous sommes les seuls animaux parlants. Hein. Bon, pour moi, ça a été, rencontrer Lacan, ça a été une bonne rencontre, au sens de fortune, si vous voulez, puisqu'il offrait une voie de secours, lui, aux gens essoufflés. On était nombreux hein, à l'époque, hein, très nombreux. Pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. Alors quand j'ai entendu ça, je me dis, tiens toi, toi je vais te suivre, et non seulement je vais te suivre, mais je vais apprendre ta langue. Et quand je l'ai entendu dire, alors encore autre chose tout à fait fabuleux, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre les générations voisines, là, je dois dire que ça m'est tombé sur la tête. J'ai entendu ça un peu de travers, mais j'ai eu une petite intuition que c'était peut-être pour ça, que ça ne marchait pas bien entre les hommes et les femmes, et qu'on passe nos journées à ne parler que de ça. Eh bien, c'est vrai que Lacan, à son séminaire, comme il le disait, il nous donnait des coups de massue sur la tête, et s'étonnait d'ailleurs de voir une assemblée de 800 personnes l'écouter bien tranquillement, aligné sur les bancs, comme ça. Je suis allé lui demander une analyse à ce moment-là, et je n'ai jamais regretté, parce que c'était sans équivalent. Alors, sans équivalent, c'est en sens mathématique que je dis ça. Ça ne veut pas dire qu'il était le seul analyste, ni le meilleur, il y en avait des très bien sur la place de Paris, mais qu'il était le seul à enseigner, et ça je reviens toujours là-dessus, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, de sorte que le réel ne peut pas s'écrire, et qu'il y a un trou dans tous les savoirs, et il mettait ça en jeu dans sa pratique. On peut dire qu'avec lui, on était bien servi. Hein. Menu gastronomique à tous ses séminaires, qu'il comparait à un restaurant universitaire où il nous donnait à manger du foin pour qu'on l'avale et qu'on le recrache comme le chien de l'écriture. Quant à sa pratique, c'était un découpage en rondelles. Dans la cure, dans les contrôles, comme dans ses présentations cliniques. Et puis, vous connaissez tous, quand même, l'effet de cisaille dans votre comprenoir quand vous lisez ses écrits. Calculer pour être illisible et pas à lire, qui est un véritable concept, pas, trait d'union A, trait d'union lire, pas à lire, afin, disait-il, de pouvoir ne pas être détourné par le commerce culturel. Très sensible à ça. Là, on oublie ça aujourd'hui avec nos publications. Alors, on en a tellement dit, et ça continue sur lui, que je ne vois pas pourquoi je ne vous donnerai pas ma version à moi, ça fera un petit crin-crin supplémentaire dans tout ce qu'on dit sur Lacan. Sur sa pratique, justement. Qu'il justifie tout le long de son enseignement, en fait, si on le lit bien. Et il est allé jusqu'à quand il a inventé sa procédure de la passe, le premier qui a été mis sur la sellette des autres analystes, ce sont ceux qui étaient dans les jurys d'agrément et qui entendaient dans la passe, la plupart du temps c'était surtout des analysants de Lacan, parler de la pratique de Lacan. À tel point que, à des occasions, j'ai eu des témoignages de ça, un passeur venait dire, voilà, tel analysant a dit telle chose, et Lacan s'arrêtait, il disait, mais comment j'ai pu laisser passer un truc comme ça? Il a été jugé là-dessus, c'était lui qui se mettait sur la sellette d'abord. Alors, moi je vais plutôt témoigner de la façon, je dirais, alors c'est peut-être un peu osé, nous pratiquions tous les deux. Donc je ne sais pas comment user avec les autres, comment nous pratiquions. Comment j'ai pu comprendre ce qu'il faisait, en vous rappelant que j'avais dit la dernière fois que l'analysant est lié au couple analysant-analyste. Donc ce que je vais dire là, je pense que ça concerne tout type d'analyse avec n'importe qui, en tout cas ceux qui se situent dans le champ de l'enseignement de Lacan et de Freud. Moi, il y a une qualification que j'aime pas, c'est analysant de Lacan. Comme on en dresse des listes régulièrement depuis 30 ans pour faire des commémorations soit de sa naissance, soit de sa mort. Alors c'est tous les 10 ans, après c'est les 100, bon, on a fêté le centenaire, donc on a du temps devant nous. Et donc les analysants de Lacan, on leur envoie des lettres pour qu'ils viennent témoigner de ce qui s'est arrivé avec eux. dire analysant deux, vous voyez que c'est quelque chose qui va pour tout le monde, ça. Dire analysant deux, ça voudrait dire que l'analysant serait le pur produit de tel analyste nommé. Mais d'une certaine façon, il y serait pour rien. Alors, je peux comprendre ça dans d'autres disciplines, effectivement, dans des écoles, avec certains maîtres, dans certaines autres disciplines, qu'on est formé par quelqu'un, mais là, non, l'analyste, c'est un analyste qui fait comme il peut avec son analysant, et l'analysant fait son analyse avec lui. Donc, je préfère cette expression, j'ai fait une analyse avec. Voilà, j'ai fait une analyse avec. J'ai fait une analyse avec un type qui se disait psychanalyste, nommé Lacan, dont je ne sais pas grand-chose, et même rien d'ailleurs, n'ayant jamais eu affaire à lui en dehors de la cure et des contrôles, je ne connais de lui que des ragots. Ils sont tous vrais, les ragots. Et d'ailleurs, Lacan donnait une... Ça ne veut pas dire que c'est réel, c'est du vrai. Et Lacan disait très bien qu'il donnait aux ragots dans le collectif le même statut qu'est l'association libre dans la cure. Intéressant, ça, quand même. Donc, moi, comme analysant au travail, et lui, comme analyste, à l'acte. Il est dans l'acte. La liste, il est dans la tranche. Lui, comme tenant lieu de la cause du désir, puisque on avait situé ça dans la position de l'analyse dans la cure. Se prétend, bien sûr, à dépendre de ce que je lui disais. C'est comme ça que ça se passait. Et sur le mode d'une présence-absence, que je peux qualifier maintenant, parce que ça m'interrogeait beaucoup à l'époque, d'un terme qu'il a inventé à l'occasion de son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, d'ailleurs, le terme d'extime. Ce n'est pas une relation intime, c'est une relation extime, c'est-à-dire quelque chose de très proche et de très étranger. C'est-à-dire, quand on était en présence, quand on était avec lui, sa présence était quelque chose comme ça. Il était très proche et très étranger. Mais en même temps, c'est un homme qui fonctionnait partout d'ailleurs. C'est pour ça qu'on le décrit souvent comme quelqu'un qui s'énervait. C'était une véritable plaque sensible. Dès qu'il y avait un mot qui sortait, paf, il réagissait tout de suite. Et il intervenait, alors moi je l'ai vécu comme ça, avec beaucoup de prudence, beaucoup de tact, et je trouvais très gentil, quoi, hein, très gentil. Il jouait de la voix, ça c'était ça, il savait le faire, il jouait de la voix, pas seulement du ton, mais de la modulation de la voix, qui était tout à fait, et en jouant aussi du silence. Donc, j'ai fait mon analyse avec lui et malgré lui. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil, avec n'importe quel analyste. Quand je parle de Lacan en dehors de cette pratique, je ne parle pas de la personne, moi, je parle du texte. Je parle de son texte. Je ne peux pas parler de sa personne, moi. On peut toujours nous dire et me dire, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, qu'il était hors service, paraît-il, les deux dernières années de sa vie, moi ça me glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi ? Eh bien, pour le paraphraser, parce que Lacan, Vallas ne sont pas couplés dans l'être, c'est par la lettre qu'ils ont trouvé dans l'autre que comme être de savoir, ils procèdent deux par deux dans un autre supposé qui n'existe pas. Donc, j'ai fait une analyse avec lui.
Vous pouvez répéter
tout le passage.
C'est passage.
Lacan, Vallas ne sont pas couplés dans l'être, mais comme être de savoir, ils procèdent deux par deux dans un autre supposé, cet autre supposé qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que je disais que j'ai fait mon analyse avec lui et malgré lui. et je l'ai suivi puisqu'il le disait de le faire comme ça, et que c'est aussi ce que dit l'analysant à son analyste, je l'ai suivi en passant par ses signifiants et réciproquement jusqu'au jour où j'ai perdu sa trace et probablement lui à mon endroit de la même façon. Au fur et à mesure de ce travail, je disais qu'il y avait quand même quelque chose sans équivalent, il y avait le séminaire, il y avait les thèses qu'on travaillait, il y avait tout un contexte comme ça, très important. J'ai appris une langue nouvelle, celle qui était la sienne, qui l'inventait, et je l'ai appris au détriment de ma langue maternelle. Et bien, c'est toujours comme ça dans toute analyse. Dès qu'on commence à parler de ses souvenirs d'enfance, dans une cure, ou qu'on l'écrit éventuellement dans un livre, on passe d'une langue à une autre. Ça a été jusqu'à un extrême, je peux le dire comme ça, que moi, pendant un temps, je me suis retrouvé agrammatique, asyntactique, dysorthographique et presque dyslexique. Hein. Et c'est, pour moi, ce n'était pas calculé comme lui, parce que lui, c'était calculé. Et puis petit à petit, on se récupère quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, mon intitulé « Séance courte et temps du rêve » implique une homologie de la temporalité du rêve avec celle de la séance, où justement les instances du temps, les scansions interprétatives, sont intégrées à un procès logique. On ne peut pas dire « j'ai rêvé de telle heure à telle heure ». Ben pour les séances, c'est pareil. Et au fond, les analysants eux-mêmes finissent par régler leur temps de séance. Et surtout, comment ils l'interrompent. De toute façon, hein, cette chose-là est importante à comprendre, que nous dormions ou que nous soyons réveillés, l'hypothèse de l'inconscient suppose qu'on passe son temps à rêver. Il n'y a pas de réveil, très peu, de temps en temps, en cas de décès. Donc on va aux enterrements, on fait des rites funéraires. En fait, là, on a le sentiment qu'on est mortel. Là, c'est un réveil. On sent qu'on est mortel, on dit qu'on est mortel, mais c'est un peu sur le mode de la dénégation, parce qu'on dit c'est lui qui est mort, c'est pas moi. Hein. Ça ne dure pas longtemps, ce moment de réveil. Freud écrit qu'il a eu affaire avec une patiente qui ne lui livre d'un rêve qu'un seul vestige, le mot « canal ». Mais il n'en est pas du tout embarrassé. Hein. Il note dans une page, en bas de page dans l'interprétation des rêves, que ce mot n'échappera pas à l'interprétation. Ça ne viendrait pas à l'idée de Freud de dire qu'un rêve est trop court, donc on passera. J'en veux un plus long. Eh bien, ça tombe bien pour moi, parce que justement, je m'en suis aperçu, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que canal, c'est exactement l'anagramme de Lacan. C'est pour ça que je vous en parle, moi, ici. Pour moi, c'est un dire, ça. Et je tiens justement à cette occasion-là l'exemple même de ce qu'un mot de la langue ordinaire, un dit, peut-être un dire, un véritable dire, il suffit de changer l'ordonnance des lettres. C'est ça un anagramme. Et Ferdinand de Saussure, il s'est désintéressé de son cours de linguistique générale finalement assez tôt. Et il a passé le reste de sa vie à étudier les anagrammes parce qu'il avait repéré qu'il se jouait quelque chose de très important là. Donc cette patiente a élaboré ce rêve à partir des bribes d'un autre rêve, où elle était en conversation avec des amis sur le livre de Freud, le Mémo d'esprit dans leur rapport avec l'inconscient. Et d'ailleurs, tout vient se gargariser avec les textes de Freud à l'époque. Tout le monde se moquait de lui. Hein. Il le note souvent dans ses rêves, ces choses-là. Et dans cette conversation avec ses amis, on évoquait le Pas-de-Calais. On parlait du Pas-de-Calais. Alors, vous voyez la série canal, mot d'esprit, Pas-de-Calais, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens au sens où c'est comme un pas de vis. C'est-à-dire qu'il va y avoir une version nouvelle qui apparaît là. Et justement, alors me chipotez pas trop, là je fais un petit forçage parce qu'il faut bien que je parle de quelque chose, et comme moi ça me touche profondément, c'est de mon dire dont je parle là, évidemment. Et bien la patiente, grâce à ça, elle peut dire ce qu'elle n'osait pas dire à Freud, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Voilà la vraie phrase. C'est un dire. C'est un dire, et vous allez voir pourquoi c'est un dire. Parce que ça fait exactement pour nous le partage entre ceux qui croient à l'inconscient et en la psychanalyse et qui considèrent que c'est sublime et ceux qui la rejettent et la trouvent ridicule. Pourtant, ils ont bien saisi quelque chose, ceux qui la trouvent ridicule. Ils ont bien saisi qu'au fond, les réponses que fait l'analyste à l'analysant, elles sont spécialement connes, quoi, en gros. C'est assez bébête, quoi, hein, la psychanalyse, c'est assez bébête, c'est pas du tout des envolées lyriques, c'est quelque chose comme ça. Et les analysants, ils savent bien que c'est ça dont il s'agit, hein, ça les étonne pas. Hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, ils font des jeux de mots, ben, bien sûr, c'est des effets tuyaux de poils sans fin. Seulement, évidemment, se raconter des blagues entre copains, c'est une chose, mais quand il y a quelqu'un sur le divan, c'est de son réel dont il s'agit. Ça a donc une toute autre dimension. Donc, le canal, si vous voulez, ce terme-là, au fond, je vous le sors comme ça, une séance chez Lacan, ça pouvait être aussi bref que ça. Le temps de dire canal. Voilà. Hein. C'était pas toujours comme ça, mais c'était souvent comme ça. Et à propos de l'exemple de Freud, on peut saisir que le réel de l'inconscient de sa patiente, celle qui lui dit son désir, d'une certaine façon, qui n'est pas simplement de se moquer de lui, parce qu'elle y croit, elle a la psychanalyse, c'est un désir qui a été anticipé par Freud, puisqu'il l'a noté en disant, je vais avoir, après coup, je vais comprendre pourquoi elle a sorti ce terme-là, hein, à propos du peu de sens, du mot d'esprit, de ces choses-là. Et évidemment, il peut l'anticiper parce qu'il est l'analyste et c'est à lui que ça s'adresse, hein, dans le transfert. C'est pour ça qu'il peut l'attraper, lui. Vu de l'extérieur, quand vous racontez ça, les gens ils disent « mais ils se foutent de notre gueule, ceux-là hein. ». C'est vrai que c'est souvent comme ça dès qu'on fait de la clinique dans des exposés. Hein. Ils ne comprennent pas que ça nous tient, ces choses-là. Hein. Donc moi, ça me fait relativement sourire quand j'entends beaucoup de gens, même dans nos milieux, dire que Freud et Lacan sont dépassés. D'ailleurs, il y a eu un exposé un peu hier, avant-hier, où il y avait quelqu'un qui disait des choses comme ça, qu'il fallait inventer des choses nouvelles. C'est vrai qu'il y a des significations nouvelles, mais la structure, elle est toujours la même. Donc, ce qui se montre ici, à Freud, qui a su attendre, il savait attendre, attendre son heure, cette patiente accouche d'une parole fondamentale, celle de la réalisation d'un désir amarré à une chaîne signifiante, hein, je vous l'ai dit, canal, mot d'esprit, pas de calais, c'est une chaîne signifiante, c'est à prendre comme ça, et ça produit chez elle une réalisation de désir au sens où c'est réalisé par le désir, comme on dit le réalisateur d'un film, et c'est une réalisation d'être du désir qui se manifeste par une satisfaction du côté du sujet, et probablement, pour Freud aussi, c'était une satisfaction d'entendre ça. C'est vrai que quand quelque chose comme ça sort dans une cure, il y a une satisfaction réciproque quand on a fait une touche de cet arbre-là. Lacan souligne qu'en opérant comme cela, Freud, avec une hardiesse qui frise l'audace et même la désinvolture, disait qu'il tenait pour légitime d'élider tous les temps pour comprendre, tous ces intervalles qui sont entre les dires, qui sont latents dans le sujet, c'est-à-dire qu'il annule les temps pour comprendre au profit des moments de conclure. Qui précipite la méditation du sujet à décider de l'événement originel. Freud était très, très ouvert aux règles techniques. Il n'avait pas, c'était pas dogmatique pour lui vis-à-vis de ses élèves, en gros, si vous voulez. Il disait que ça ne pouvait pas être des dogmes, mais que chaque analyste devait fabriquer son propre outil pour travailler. C'était pareil pour Lacan, qui disait « prenez exemple sur moi, mais ne m'imitez pas ». Donc, j'essaye de vous dire ici, de vous présenter non pas son style qui est inimitable, comme pour chacun d'ailleurs, mais les raisons de structure pour lesquelles il produisait dans sa pratique, il opérait dans sa pratique un renversement dialectique dans le temps de l'analyse. Alors, évidemment, l'immensité, la plupart des gens qui venaient le voir étaient quand même des gens qui s'étaient très engagés et qui voulaient devenir analystes, qui étaient déjà très engagés dans ce genre de processus. Il y avait des gens même qui étaient des psychanalystes exerçants et reconnus dans d'autres écoles. Mais il y avait aussi ceux qui venaient d'autres horizons et qui étaient ce qu'il appelait le tout-venant. Ce n'était pas un terme péjoratif chez lui, c'était des gens qui venaient à l'analyse parce qu'ils souffraient. Eh bien, c'était exactement le même régime de travail, le même régime, avec quelques petits aménagements qui tenaient compte de la subjectivité de chacun. Pour lui, toute cure est didactique. Alors ça a deux sens. Ça a le sens que c'est didactique parce qu'on y fait la conquête d'un savoir. Et en même temps, on apprend ce savoir. Donc il y a les deux termes qui sont en jeu dans la cure. C'est en ce sens que c'est didactique. Et il n'y a pas un automaton, contrairement à d'autres groupes analytiques qui font la séparation entre analyse thérapeutique et analyse didactique. L'analyse thérapeutique, c'est pour les malades, qu'on les décide au départ. Et les didactiques, c'est pour ceux qui vont devenir analystes, donc ils sont normaux, ou ils sont guéris par leur première tranche, et ils vont devenir analystes. Ce n'est pas un automaton pour Lacan. Pour éventuellement devenir analyste, il y a un acte à produire. C'est d'ailleurs même ce que, fondamentalement, Lacan appelle l'acte analytique. Et celui qui accomplit l'acte analytique, ce ne sont pas les interventions actantes de l'analyste, c'est l'analysant lui-même qui va advenir comme analyste. C'est ça l'acte analytique, dans sa définition lacanienne la plus stricte. Qu'il accomplit un pas qui va l'amener à définitivement pouvoir un jour occuper la place de l'analyste. C'est-à-dire qu'il accède là où c'était le désir nouveau qui émerge en lui, un désir inouï, inoubliable, qui va le faire accéder à peut-être un jour, s'il ne l'était pas encore, exercer la psychanalyse. Voilà. Hein. Alors, et ça, c'était ouvert à tout le monde. Donc, quand je parle du tout venant, un tout venant qui venait parce qu'il souffrait, il était malade, il se considérait comme malade, lui aussi pouvait devenir analyste. Regardez bien les groupes analytiques, maintenant de plus en plus ils se ferment à l'ouverture au tout venant. Moi je suis dans un groupe où je suis sidéré de penser que pour faire la passe, chez nous, qui est quand même une procédure difficile et complexe, elle n'est réservée qu'aux gens qui ont fait des analyses avec les AME de l'école, donc déjà des analystes reconnus. Moi, je trouve ça assez grave. Parce que ça veut dire, ce groupe veut dire, y a, les analystes sont chez nous, ailleurs, ce n'est pas des analystes. Et ça se traduit dans les rapports institutionnels entre les gens. Je pense que ça se produit probablement avec l'école de la cause. Bon, je ne suis plus beaucoup au courant de ce qui se passe à l'école de la cause, mais c'est quand même, je trouve que c'est un truc assez grave, ça. Parce que quiconque vient faire une analyse pourrait devenir un jour analyste s'il a le courage ou le fait de structure de commettre l'acte qui va l'amener à devenir analyste. L'analyste qui ne s'autorise que de lui-même. C'est ça la vraie définition de Lacan. Ce n'est pas un type qui dit un beau matin, je mets ma plaque, je suis psychanalyste. Ça, il y en a plein, des comme ça. Là, c'est l'analyste qui s'autorise de son égarement, quoi, hein, en gros. Hein. L'analyste qui s'autorise de lui-même, c'est autre chose. C'est un fait de structure. Bon, alors, donc, conquête d'un savoir dans la cure, que Lacan désigne comme notre seul lot de savoir, qui est à lire et qui est allié dans un lien social. Symptôme originaire qui n'est pas dissous, qui peut être simplifié dans la cure, pour le différencier des symptômes, qu'on les appelle, qui ne sont que des significations du symptôme dont ils se déterminent. C'est pour ça que quand on nous parle de la nouvelle clinique, des nouveaux symptômes, ce ne sont que des significations du moment, de la subjectivité du moment, mais la structure, elle est toujours là. Hein, c'est comme ça. C'est pour ça que plus on va vers la déliquescence des liens sociaux, plus on a intérêt à rester de plus en plus rigoureux sur nos positions par rapport à ça, par rapport à la structure. Ne pas céder là-dessus. Alors, voilà, le déroulement d'une séance, les séquences temporelles, qui sont devenues logiques. Il y a d'abord l'instant de voir, premier temps. Au fond, c'est le temps de l'intuition, et c'est le temps où le sujet consent quand il s'allonge, au choix forcé, finalement, de dire ce qui lui vient à l'esprit, sans préparer à l'avance, sans choisir, sans chercher à comprendre trop vite, et sans réfléchir. Bon, une règle impossible à suivre, mais enfin, c'est comme ça. Donc il y a une espèce de choix forcé auquel il consent, et il a été préparé à ça dans les entretiens préliminaires, en principe. Hein. Ça peut être le développement d'une phrase, ça peut être l'évocation d'un rêve, ça peut être un ensemble de choses comme ça. Ça, c'est l'instant de voir. Ça se présente donc, on peut dire, c'est le temps d'un instant, en fait, l'instant de voir. C'est le temps d'un instant qui est au fond caractéristique du battement de l'inconscient, de pulsation comme ça, dans un moment d'ouverture où l'on peut saisir la simultanéité et l'instantanéité des chaînes signifiantes. Comme dans le travail du rêve, où le sujet dit sans comprendre. C'est un véritable tableau ou un fantasme, donc une espèce de fenêtre sur le réel. Et là, justement, dans sa pratique, Lacan, en tout cas, c'est comme ça qu'il voyait la chose, il faisait conclusion. Il faisait conclusion pourquoi ? C'est-à-dire qu'il intervenait. Il intervenait dans la hâte, en gros. Il actait l'acte, la hâte, la fonction de la hâte, qui est propre à toute décision. C'est-à-dire que la brièveté de la séance n'est pas calculée. Elle est précipitée justement avant le moment de fermeture de l'inconscient. Il faut y aller. Là, il faut y aller. Sinon, on rate ce coup-là et ben, il faudra attendre une prochaine fois. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et, ben, c'est comme ça qu'il a opéré. Donc, autant à l'instant de voir, il répondait par le moment de conclure. Parce que l'analyste, il peut conclure par anticipation pour son analyse. Ce qui émergeait dans les dits du patient, c'est-à-dire un dire qu'il ne peut pas dire, c'est l'analyse qui lui pointe. C'est pour ça que Lacan parle justement de l'interprétation qui joue de l'équivoque signifiant, pour le mot canal par exemple, hein, ne doit pas le rater. Alors il a cette phrase comme ça qui est relativement simple, même si au départ on la trouve très complexe. Elle doit être preste pour satisfaire à l'entreprès de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. Bon, je vais vous la commenter un tout petit peu quand même. Ben, c'est une très belle phrase, magnifique, c'est une phrase qui est dans la télévision, c'est les dernières phrases de télévision, je trouve ça merveilleux. Moi, ça. C'était quasiment une improvisation pour lui. Lacan, il disait, enfin Freud plutôt, disait tout simplement que c'est comme le saut du lion, quoi. Il saute une seule fois. C'est connu que le lion, il est tellement lourd que s'il n'attrape pas sa gazelle, il est foutu. Il faut que les femelles aillent lui chercher d'autres gazelles. Il ne peut pas faire plus, le lion. Alors, de quoi s'agit-il ? On joue de l'équivoque signifiante. Ça a deux effets. Ça a d'abord un effet de déchiffrage du sens. Ça donne un sens nouveau, le fameux pas de vis, qui est relativement calculable dans le cours d'un discours, et ça produit aussi un effet de jouissance qui est absolument incalculable. Donc quand un analytique intervient, il peut viser, il peut avoir des effets de sens, mais il ne sait pas ce que ça va produire. C'est la suite qui va lui confirmer si ça marche ou pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'il y ait des séances, des séquences là. Hein. L'analysant, il vient de lundi, il dit des choses, et le mercredi, quand il va revenir, il va reprendre ce qu'il a dit à la séance, et le samedi, et puis voilà, hein, c'est, ou bien dans 3 semaines, mais c'est des séquences qu'on suit comme ça. Hein.